Bonjour à tous, ceux que j'ai pas vus. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin et de pouvoir vous partager ce que j'ai sur le cœur, enfin, en tout cas ce que Dieu, je le pense comme ça, en tout cas, a mis sur mon cœur. Et je vais commencer avec vous par une petite anecdote, sous la forme d'un un peu de mea culpa. Il y a quelques semaines, ma femme, à son collège, a organisé le forum, ce qu'on appelle le forum des métiers. Donc je vous explique un petit peu le principe rapidement. Le forum des métiers, c'est des intervenants extérieurs qui viennent et qui présentent le métier aux enfants. Et j'y étais présent et il y avait également Damien Aurélie qui était venu. Et Damien, je ne sais pas si tu te souviens, c'est toi qui vas être visé pour commencer. Quand tu es arrivé, quand je t'ai vu, Damien avait mis sa plus belle chemise, son plus haut pantalon. Et je m'étais moqué de lui et j'avais dit « Oh là, t'es venu en mode prédicateur ce matin ». Il m'a dit « Ah, on me l'a fait tout le temps, celle-là, je suis content, il a mis une chemise ce matin ». Bah écoute Damien, j'ai pensé à toi ce matin parce que quand je me suis levé, je me suis moqué de toi il y a quelques semaines, mais quand je me suis levé, la première chose que j'ai fait en allant dans ma garde-robe, c'est d'essayer de prendre ma plus belle chemise. Donc tu vois, je me suis moqué. Bon, pour le pantalon, j'ai pas eu trop le choix puisque c'est madame qui est venue après et qui a... Mais voilà. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que on m'a posé la question ce matin, on m'a dit « Comment tu te sens ce matin? Pas trop stressé, tout ça ?» Et puis je disais « ça me rappelle... Ça me rappelle, il y a 7 ans, la première rentrée à l'école à Arnes. Les mêmes sensations entre un petit peu d'excitation, un petit peu de stress. Et ça fait le lien un peu avec ce que j'ai dit ce matin, enfin ce que je viens de dire maintenant, parce que je me suis rappelé de la première fois où j'ai apporté cours. La veille, quand on est pour la première année, comme ça, on a une tutrice. Et ma tutrice m'avait dit, et ça m'a marqué, et ça me marquera toujours, je pense, « Bon, demain, voilà, c'est ta première rentrée. Et chose importante, demain, tu mets ta plus belle chemise, ton plus beau pantalon. Il faut que ça envoie. Parce que les élèves, la première chose qu'ils vont regarder, c'est la première fois qu'ils vont te voir, c'est la façon, quand tu seras habillé, ce que tu vas envoyer. Parce que tu sais, tu as un droit, en tant qu'enseignant maintenant, tu as un droit d'exemplarité. Et c'est très important de le respecter, ce droit d'exemplarité. Alors, il y avait moi, j'avais aussi un collègue, lui, il avait pris au mot, hein, il avait mis un costard, une cravate. Bon, à Arnes... Ça n'avait pas forcément eu l'effet escompté, mais donc voilà. Mais ça m'est marqué. Et ce qu'elle avait dit après, surtout, c'est ça que je voulais revenir là, et ce que je veux retenir et vous apporter ce matin. Elle avait dit, mais ce devoir d'exemplarité, c'est pas demain qui sera mis à mal ou que tu auras du mal à le tenir, parce que demain ils vont être gentils, c'est le premier cours, donc ils vont être sages. Mais dans quelques mois, quand ils commenceront à te tester, quand ils mettront un peu de difficulté, quand ils te mettront en difficulté, c'est là que ça sera difficile de rester. Et c'est là où d'autant plus il faudra que tu restes exemplaire. Alors voilà pourquoi je vous dis ça, c'était une petite introduction, on peut lancer, j'y vais. Voilà, au thème d'aujourd'hui, ce que j'avais à cœur, c'est vous parler de une foi exemplaire avec ce sous-titre en dessous. Plus que jamais, c'est dans l'adversité, dans la difficulté, que Dieu veut que nous ayons une foi exemplaire en lui. Alors pour commencer, j'ai préparé une petite vidéo, c'est tiré de la série La Bible, ils ont passé ça il y a quelques mois, même quelques années je pense. Hein. Je vous ai donc préparé ce petit, ça dure 5 minutes, on va le regarder ensemble, on en reparlera, ça va être pour illustrer un peu mes propos, avec une scène bien connue dans Daniel 3, les compagnons de Daniel et la fournaise, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc on va regarder ça et on y reviendra juste après. Voilà. Alors, je vois que ça a le même effet sur vous que sur les enfants, puisque c'est une vidéo que j'avais montrée aux enfants il y a 1 an et demi. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais repris ça, parce que ça, voilà, je trouve que c'est assez parlant. C'est toujours bien, c'est une histoire qu'on connaît, mais c'est toujours bien d'avoir, de visualiser. On s'imagine toujours quelque chose, du moins cette scène, quand on lit, on l'imagine. Là, c'est bien d'avoir un point de vue d'un réalisateur. Alors, bien sûr, il s'est permis quelques largesses, hein, on peut les citer. Hein, bon, c'est, voilà, c'est pour rendre peut-être plus fun, ou je ne sais pas, en tout cas, ici, il y en a deux des largesses, je vais quand même les préciser. À aucun moment, en tout cas, on reviendra après sur les passages bibliques, mais à aucun moment, il est dit, par exemple, que Daniel essayait de convaincre les trois autres de ne pas agir ainsi. Et également, ce n'est pas normalement le roi qui se brûle la main, mais les gardes du roi qui se brûlent la main. Mais bon, finalement, ce ne sont que des détails par rapport à cette histoire. Alors, pourquoi cette histoire? Je me souviens, alors j'ai eu la chance, je le présente comme ça en tout cas, d'avoir été très jeune à l'église. Alors on a vu, hein, l'école du dimanche, ça nous a marqué. On en a entendu des histoires à l'école du dimanche, mais s'il y en a une, je me souviens, hein, avec mon petit cœur d'enfant peut-être, qui m'avait marqué, c'était bien celle-là. Alors je me suis posé la question pourquoi, surtout quand je l'ai refaite, notamment avec les jeunes d'ici, pourquoi cette histoire m'avait marqué. Bon, j'ai vite compris hein, en montrant la vidéo, ce qui marque à cet âge-là, c'est le miracle. C'est le fait d'avoir de voir des personnes dans le feu et que le feu ne les atteint pas. Je pense que c'est ce qui vous a aussi certainement marqué, du moins dans cette scène. Je pense que si ça nous marque, c'est parce qu'on a tous, on passe tous un moment, je pense, dans notre enfance, par un moment où le feu nous fascine, où on tente des expériences avec le feu. Ça a été mon cas, alors peut-être un peu malgré moi. Si vous vous souvenez, papa et maman, hein, mes 3 ans déjà, hein, pour souffler mes bougies, j'y arrivais pas. Je les ai éteintes avec la main. Bon, je vous laisse imaginer que je sais ce que c'est de prendre le feu directement. Ou même, je me suis, en réfléchissant un petit peu plus loin, je me suis souvenu, ça c'est peut-être plus avec maman, on avait un feu à pétrole à la maison et on le mettait de temps en temps dans la salle de bain. Et il m'est arrivé une fois, en voulant mettre mes chaussettes, après avoir pris mon bain, de m'asseoir dessus alors qu'il fonctionnait. Bref, je pense que c'est peut-être pour ça qu'à l'école du dimanche, cette histoire m'avait marqué, parce que je m'étais dit, si j'avais pu, comme ces hommes, éviter de souffrir par le feu, je l'aurais certainement fait. D'où cette remarque que je me suis fait ensuite. Je me suis dit, maintenant, j'ai un peu grandi, le miracle m'avait marqué, maintenant je vais me poser, je vais essayer d'aller un peu plus loin, et avec vous, c'est ce que je veux faire ce matin. On peut se poser la question, pourquoi il y a ce miracle? Et je pense que c'est la question centrale ici, et la réponse est claire, je pense qu'on peut le dire, il n'y aurait jamais eu ce miracle sans la foi exemplaire en Dieu de ces 3 hommes. Alors, on va continuer. Du coup, on va resituer un petit peu cette histoire historiquement. C'est toujours bien de définir un cadre. Donc, nous sommes en 597 avant Jésus-Christ. Le peuple hébreu, le peuple de Dieu, de plus en plus désobéissant à Dieu, voit donc Nabuchodonosor, un roi, s'emparer de Jérusalem et détruire le temple de Salomon. La séparation, voilà, entre Dieu et le peuple, en tout cas, symboliquement, cette destruction du temple était forte. Le peuple de Dieu et donc sous le joug du puissant roi babylonien de l'époque. Alors, j'ai essayé de faire un lien avec aujourd'hui. Aujourd'hui, merci Seigneur, nous sommes plus sous l'emprise du roi Nabuchodonosor. Non, grâce notamment au sacrifice de Jésus à la croix, nous sommes libres en Jésus. En tout cas, nous sommes sous la grâce du Dieu vivant. Amen. Cependant, sous une autre mesure, on peut remarquer, et vous le remarquez certainement dans votre vie tous les jours, que Satan tente toujours d'imposer le peuple de Dieu sous un joug qui est dû au monde qui nous entoure. Alors, j'ai des exemples hein, qui peut illustrer ça. Tous les jours, hein, on a différentes choses. On a tout d'abord les soucis de la vie. Hein. C'est une façon un petit peu de nous emprisonner. Qui n'a jamais eu de soucis et s'est dit... du coup, prie, voit que Dieu ne répond pas tout de suite et se dit « À quoi bon prier ? Dieu m'a abandonné, il n'est plus avec moi. » Ou alors aussi, toutes ces choses à faire. Papa en parlait ce matin, dans ce monde, on a tellement de choses à faire qu'on en oublierait même des fois peut-être de le Seigneur. Ou plein de choses, ou moi, je me souviens aussi, quand je parle du monde qui nous entoure, un peu la pression, moi à l'école, c'est comme ça, je veux dire, je critique pas hein, en soi, mais on est dans un monde laïque. Et la première fois qu'une collègue est venue me voir, je me souviendrai toujours, en salle des profs, devant tout le monde, elle m'a dit « Geoffrey, j'ai vu que tu avais un poisson derrière ta voiture, ça signifie quoi ?» devant tout le monde. Pff, la pression, là, la pression du monde, ça m'en paraît. Alors j'en parle pas, est-ce que j'essaye d'envelopper ça ? Voilà. Donc, d'une certaine manière, Satan tente toujours d'imposer le peuple de Dieu sous une pression, sous un joug qui est lié à la pression du monde. Alors, les protagonistes, on va essayer de faire le lien, aller un peu plus loin dans cette histoire. Les protagonistes de cette histoire, on peut en citer clairement 3. On a le roi, on le voit bien ici. On a le peuple de Dieu, qui s'est prosterné hein, notamment. Et au milieu de ce peuple, 4 personnes, j'irais 3 plus 1, qui se séparent, enfin qui se démarquent. On a donc, je vais donner plutôt les noms, alors il parle d'Azaria, mais ici on va plus citer, parce que c'est le nom qui leur a été donné, Meshach, Shadrach et Abednego. Et enfin, donc, Daniel. Alors, continuons, faisons le lien. À votre avis, qui représenterait, si on fait le lien avec aujourd'hui, le roi Nabuchodonosor, aujourd'hui ? Satan, d'accord ? Satan, on le voit bien en plus, le réalisateur, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de le voir, le représente avec, d'ailleurs vous avez vu, des traces noires autour des yeux. Donc c'est vraiment, je pense, la volonté de le représenter, donc c'est lui le méchant. Voilà. Ensuite, on a le peuple de Dieu, bah, c'est l'Église d'aujourd'hui. Alors bien sûr, attention, hein, je ne dis pas que vous êtes tous des désobéissants et prêts à vous prosterner devant des statues d'or. Non, non, mais comme on l'a dit juste avant, d'une certaine manière, on est toujours, par moment, dans des difficultés. On peut être amené à être emprisonné et éloigné de Dieu. Et enfin, donc, ces hommes, ces quatre hommes que j'ai cités, qui, eux, sont bah, un petit reste de chrétiens qui essayent de se démarquer et qui ne veut pas se conformer à la pression du monde du siècle présent. Alors, parmi ces trois-là, du coup, Dieu nous appelle à faire partie de quelle partie, entre guillemets. Alors, c'est la mode, hein, on est dans les élections. De quelle partie? Bah, ici, c'est simple, hein, on a la réponse directement. 1 Corinthiens 16, 13, un peu plus tard, bien sûr, dans la Bible, mais Dieu nous dit « Veillez et demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Ne soyons pas comme une partie du peuple qui n'a même pas cherché et s'est prosterné directement. Soyons comme ces Shadrach, Meshach et Abednego. Voire même Daniel, même si Daniel, bon, c'est pas dit vraiment aussi bibliquement, mais on le voit bien, peut-être a des doutes, leur foi sera-t-elle assez forte? Mais ayons, voilà, dans ce contexte, Dieu nous appelle à avoir une foi solide, une foi exemplaire à lui. Alors, pourquoi? Pourquoi avoir une foi exemplaire? Et là, j'ai un petit peu cherché à faire des images pour que vous saisissiez peut-être. Eh bien, afin d'avancer dans notre vie à vue et non dans le brouillard. Alors, j'ai pris une photo avec un brouillard, une photo avec une jeune fille qui marche sur la plage, bien pour vous donner l'envie. À votre avis, vous préférez être dans le brouillard ou sur la plage? C'est bon, on est d'accord, je l'ai fait un petit peu exprès. Et du coup, la question suivante, dans ce cas, d'où viendra la lumière? Dans ce genre de situation, donc, comment marcher à vue? Eh bien, dans ce genre de situation, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Alors, je ne sais pas, j'ai déjà envie de dire, cette prise de conscience, elle doit venir avant tout de vous. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que on a peut-être entendu souvent, et même moi j'ai pu penser, qu'avant tout, quand on est dans la difficulté, on pense que la situation, le problème viendra, se résoudra grâce à la foi d'un responsable, la foi d'un pasteur qui sera plus forte que la nôtre, parce qu'elle est forcément plus forte que la nôtre, et qui va du coup nous sortir de la difficulté. Là, on le voit bien ici, d'autant plus, avant tout, cela peut venir de nous. Les trois hommes étaient juste trois hommes qui sortaient du peuple. D'accord? Donc, elle vient avant tout de nous. Mais dans ce genre de situation, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Elle peut venir de nous-mêmes si, et c'est bien la condition, nous sommes ces hommes de foi exemplaires. Alors, qu'est-ce qu'avoir une foi exemplaire? C'est bien, à la limite, de le définir ensemble. Et pour le définir ensemble, j'ai repris un petit peu le mot foi en hébreu. J'ai fait un petit peu de recherche. Et j'ai vu qu'il était traduit par deux mots dans la Bible. Alors, on a la partie d'Ancien Testament, où on est, hein, puisque ici, en tout cas, Daniel fait partie du livre de Daniel de l'Ancien Testament, qui est traduit par Emouna, donc dans l'Ancien Testament, dont la racine se trouve dans les expressions, j'ai oublié un S à expression, c'est le côté prof qui en surgit. Être stable, être durable, être sûr, être obéissant. Et on a, je me dis, bon, on va regarder quand même le deuxième mot, hein, qui est plus dans le Nouveau Testament, qui est pistis, qui signifie et qui donne la racine du mot fidèle. Et enfin, quand on regarde le mot exemplaire, ça j'ai regardé plutôt dans le dictionnaire, le mot exemplaire dans le dictionnaire donne que l'on peut citer en exemple, qui sert d'exemple pour les autres. Alors, si on fait un petit bilan, pour ça, je vous invite, et on va lire ensemble Daniel 3, 16, 18, pour voir un petit peu aussi donc, la position des trois hommes. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Si on fait le lien avec ce qui a été vu avant, la traduction donc, et la recherche en hébreu du mot « foi » et dans le dictionnaire exemplaire, là, il est clair que si tu es fidèle à Dieu, si tu lui obéis, tu es un exemple pour le monde qui t'entoure, tu es un homme de foi exemplaire. Tu seras un homme de foi exemplaire. Et cela fera de toi une personne stable, sûre, qui impactera positivement ceux qui t'entourent. Voilà, j'ai lâché la définition, mais c'est très important. Et moi, ça m'a marqué. J'ai réécouté, j'étais pas là, mais j'ai réécouté le message de Jean Raymond hein, sur garder l'espérance des promesses de Dieu. Et tu citais l'exemple d'Abraham, c'était il y a 2 semaines, et tu disais, hein, c'est parce qu'il a été fidèle, obéi, c'était un homme de foi exemplaire aussi, Abraham, que tout, voilà, que ce qui a suivi lui est arrivé ainsi. Donc c'est très important, on voit que ce n'est pas que dans cet exemple-là, mais que c'est bien dans de nombreux exemples. Alors, moi, j'ai essayé de réfléchir et de faire le lien aussi avec pour que ça vous parle plus, une situation, un exemple qui n'est pas biblique aussi. Peut-être on voit que c'est quelque chose aussi qu'on peut appliquer. Alors, j'ai fait un petit retour dans ma scolarité, et puis, bon, en fait, ce n'était pas si compliqué, parce que c'est une période de l'histoire qui me passionnait. C'était la Seconde Guerre mondiale. Et là, je vais faire appel à mamie. Mamie le sait, parce qu'elle a vécu ça aussi de plus près. Je ne dis pas que tu es vieille, mamie. Mais bon, tu as vécu ça. Et je pense que tout le monde l'a entendu. Il y a un moment donné où la France était au bord du néant. Elle était sous l'emprise allemande, hein, bien sûr. Et de où est venu le salut ? Elle est venue, c'est l'histoire qui dit ça, c'est pas moi qui fais de la politique, d'un homme de la foi exemplaire, pas en Dieu cette fois-ci, mais en son pays, du général de Gaulle, qui ensuite a réussi à convaincre quelques personnes, puis d'autres, puisqu'il y a eu les résistants, etc., finalement, le peuple, puisque à la fin, le peuple a même reconnu comme le sauveur, entre guillemets, de la nation. Eh bien, ici, voilà, c'est juste un exemple pour vous montrer une fois de plus que la foi exemplaire de cet homme a impacté positivement le cœur qui s'entoure, tout ça, le cœur des gens qui l'entourent. Tout ça pour dire que quand tu es un homme de foi exemplaire, ça t'impacte toi dans ta vie, mais ça impactera aussi autour de toi, et notamment l'Église, puisqu'on voit ici, on le voit bien dans la vidéo, c'est très marquant, le peuple à la fin, vous avez vu comment il se relève en voyant, donc ça impacte aussi autour, la foi exemplaire en Dieu est contagieuse, merci Seigneur. Alors, quels ont été les impacts ? Alors, quels ont été les impacts donc de la foi exemplaire ? Alors, j'en ai relevé 4, ici dans cette histoire. On a tout d'abord en Daniel 3, 24, je vais le lire. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il dit à ses conseillers, « Nous n'avons pas jeté ces hommes dans le feu ?» Ils répondirent au roi, « Bien sûr, au roi. » Il reprit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans entrave qui marchent indemnes dans le feu. » Premier impact, c'est le miracle divin. Quand vous êtes des hommes de foi exemplaire, quand vous faites preuve de foi exemplaire en Dieu, la première chose dans votre situation de difficulté, c'est que Dieu intervient et il y a le miracle divin qui intervient forcément. L'intervention divine de Dieu dans leur situation compliquée. Deuxième chose, bah je l'ai dit juste avant, on le voit bien donc sur la vidéo, je m'appuierai plus sur la vidéo, on peut imaginer la foi reboostée du peuple qui, en voyant ce miracle, qui se sentait peut-être éloigné de Dieu, se relève et réavance vers Dieu. Le peuple qui se redresse. Donc, un impact dans ta vie, mais un impact aussi sur ceux qui t'entourent. Et puis, il y a Daniel 3, 28, troisième point. Nabuchodonosor dit, donc le roi, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lui qui a envoyé son messager et délivré ses serviteurs, car ils ont eu confiance en lui. » Ils ont transgressé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir aucun autre dieu que leur dieu en l'adorant. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera inconsidérément contre le dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Dans cette situation, il y a la capitulation de l'ennemi. Non seulement, on le voit ici, le roi qui se soumet et qui reconnaît la puissance de Dieu. Donc quand vous êtes un homme de foi exemplaire, dans votre situation compliquée, Dieu intervient, autour de vous, c'est un impact, et en plus, l'ennemi capitule. Et enfin, alors moi je retiens ça, alors vous allez dire, il parle tout le temps de son métier, mais moi c'est ça je retiens, parce que j'ai recherché ça, les élèves, quand on leur dit quelque chose, il faut toujours qu'ils trouvent. Et moi, je veux en plus mon petit truc, mon petit cadeau à la fin. Ben là, regardez, il y a le cadeau divin. Bien sûr, Dieu a agi dans leur vie et est venu, mais en plus, il leur a offert plus. C'est en Daniel 3, 30 qu'on voit ça. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Donc en plus de ça, l'ennemi a capitulé, mais Dieu permet à travers le roi, leur offre un cadeau, la faveur de Dieu pour les trois hommes à la fois exemplaires. Donc ça, ce sont les impacts. Mais vous allez me poser, vous allez me dire, bon, Geoffrey, c'est bien, j'ai bien compris ces impacts-là, j'ai bien compris qu'il faut que je sois un homme exemplaire, deux fois exemplaire, j'ai compris ce que c'était à foi exemplaire, mais moi, j'y crois pas, j'y sens pas, j'arrive pas à l'avoir, cette foi exemplaire. Eh bien, je te rassure. Et... c'est la mère, merci. Et pour ça, donc là, j'ai la réponse à ça. Et donc, avec la question, comment cultiver une foi exemplaire? Et j'ai la première chose à te dire, pour te rassurer, ce n'est pas impossible, ce n'est pas si compliqué. Merci Seigneur. Alors, pour cela, pour revenir à ça, alors je ne sais pas, j'avais préparé une... Mais bon, elle n'est pas là, c'est pas grave, je l'ai en tête. Donc, pour comment cultiver une foi exemplaire en Dieu? Et alors, pour ça, il faut revenir un peu plus... Enfin, je vais commencer en allant un peu plus loin dans le livre de Daniel, où on reparle un petit peu et un peu plus tôt. On parle toujours de ces trois hommes. Et un peu plus tard, déjà, dans Daniel 6:10, sur la route de Jérusalem, il est dit que les trois hommes priaient trois fois par jour le genou à terre. Eh bien, déjà, première chose, j'ai envie de vous dire, et aussi j'ai envie de me dire... pour être des hommes de foi exemplaires, il faut qu'il y ait une connexion divine, il faut que nous soyons connectés avec le Seigneur. Bien sûr, on ne va pas vous demander de prier trois jours le genou à terre, mais déjà avoir une connexion divine, priez votre Dieu, soyez avec lui. Et moi, en préparant un petit peu ça, en revoyant ça cette semaine, il y a papa qui m'a envoyé, ou maman, je ne sais pas, parce que c'était avec le compte Facebook de papa, une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, d'une femme qui témoignait que le Seigneur a pu lui... Enfin, pendant son sommeil, lui a permis d'aller voir les cieux. Et il y a quelque chose qui m'a marqué et qui m'a... L'émotion est montée, en tout cas, quand j'ai lu ça. Alors, c'est très fort, hein. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Je pense que papa pourra peut-être transmettre le lien. Et c'est vraiment très, très fort comme témoignage. Vous savez, des témoignages comme ça, ça fait toujours peur, on en entend beaucoup. Mais là, on sentait tellement dans cette femme la compassion de Dieu. On avait l'impression que c'était Dieu qui nous parlait, vraiment. C'était la façon dont elle le disait, la portée. Et elle a dit que Dieu lui a permis d'en haut de voir, de rentrer dans une pièce où il y avait plein de vases. Ou des verres, je ne sais plus, et des vases. Et il y avait des vases qui étaient beaucoup éclairés et d'autres un peu moins. Et elle lui demandait, elle dit, qu'est-ce que représentent ces vases? Et Dieu lui dit, ben ça, c'est tous mes enfants. Ben, pourquoi il y en a qui sont plus éclairés et d'autres moins? Ben, ceux qui sont plus éclairés, c'est parce qu'ils me prient. Et ceux qui sont moins éclairés, c'est ceux qui me prient, qui prient moins, qui passent moins de temps à la prière. Pourquoi? Parce qu'ils ont plein d'autres choses à faire, peut-être, ou ils sont occupés. Et on sentait, elle disait... Elle-même, quand elle parlait, elle disait « Le Seigneur, je sentais tellement la tristesse de Dieu. » Et on le ressentait dans son témoignage de sentir que Dieu n'était pas en train de culpabiliser ou de juger en disant « Il ne me prie pas. » Non, Dieu était juste triste parce qu'il les considérait comme ses enfants. Il disait « Ce sont mes enfants et il ne me prie pas. » Et moi, même moi, ça m'a marqué. Après ça, j'ai prié et j'ai dit « C'est vrai, Seigneur, le nombre de fois où... Je te prie, peut-être dans ma voiture, je me dis, oh là, j'ai 2-3 minutes, allez, je vais profiter, je vais prier, ça sera ma prière du jour. Non, Seigneur. Et par rapport à ce message-là, je le vois d'autant plus, il faut que nous ayons une connexion divine avec le Seigneur. Et puis, donc ça, c'était pour après, on va revenir avant, l'historique de ces trois hommes. Est-ce que, je ne sais pas si vous situez un peu l'histoire aussi, donc, avec Daniel. Comment ces trois hommes sont apparus? Ils ne sont pas apparus en Daniel 3, ils sont apparus bien plus tôt, au tout début du livre de Daniel. On voit ces trois hommes arriver. Alors, en fait, c'est simple, hein, c'est le roi Nabucodonosor, pour vous montrer vraiment la pression du monde et comme quoi il voulait se conformer. Le roi Nabucodonosor demande à ses serviteurs d'aller chercher dans le peuple donc, de Dieu quatre hommes plutôt beaux, si possible, hein, intelligents, voilà. Donc vraiment l'élite, entre guillemets, j'ai envie de dire, du peuple, pour qu'ils viennent dans sa cour et qu'ils se soumettent à la mauvaise vie, donc c'est-à-dire en mangeant, buvant certainement de l'alcool, mangeant des mets pour qu'ils grossissent, mais voilà, pour qu'ils se soumettent aux mauvaises coutumes locales. Et ces hommes arrivent. Alors Daniel, il a eu grâce aux yeux du roi, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais ces trois hommes, eh ben, eux, ils prennent déjà la décision à l'époque, avant, de dire non. Nous, ce n'est pas la peine, on ne veut pas du vin, on ne veut pas manger, on ne veut pas se soumettre à ces mauvaises coutumes locales. Donc ne nous donnez rien. Et vous verrez, dans, alors je ne sais plus, je crois que c'est 10 jours, dans 10 jours vous reviendrez, et je suis sûr qu'on sera plus gros et qu'on aura meilleure mine que toutes ces personnes qui, eux, se soumettront à ces mauvaises coutumes locales, ce qui s'est d'ailleurs passé. Donc déjà, à l'époque, et en d'autant plus dans cette histoire, si vous voulez être des hommes de foi exemplaires, et si nous voulons être, je m'inclus aussi dedans, des hommes de foi exemplaires, il faut que, en plus d'une connexion divine, nous ayons des prises de position divines fondées et basées sur la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que, en plus d'une connexion divine par la prière, il faut que nous ayons une bonne connaissance de la parole pour pouvoir prendre des bonnes positions et prendre des bonnes décisions dans les situations difficiles qui nous impactent. Ici, il faut quand même dire c'est fort parce que c'est pas compliqué entre l'idée. Dans l'idée, le fait qu'ils se soumettent, qu'ils se prosternent devant la statue, c'était simplement le premier commandement de Moïse. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te soumettras pas à d'autres dieux que moi. Et le peuple de Dieu allait l'oublier, eux ne l'avaient pas oublié. Voilà, donc pour cultiver une foi exemplaire, il faut la prière, une bonne connaissance de la parole pour prendre les bonnes décisions. Amen. Et je vais conclure. Soyons donc des hommes de foi exemplaire. Et pour conclure, je vais prendre un Galates 10. Alors, je ne sais pas si je l'ai là, parce que je ne sais pas ce que j'ai fait ce matin. On veut toujours faire des trucs de dernière minute. Et ça a tout changé, mais c'est pas grave, je l'ai dans ma tête, merci Seigneur. Un Galates 10, ça, alors c'était quand, avec papa, hein, je préparais un peu ce que j'avais à cœur, et j'ai lu sur Top Chrétien, Pensée du jour, et j'ai eu ce verset, un Galates 1, 10, et j'ai ce verset qui, je me suis dit, comme conclusion, ça serait parfait. Et maintenant, vais-je essayer de persuader des humains ou bien Dieu? Est-ce à des humains que je cherche à plaire? Si je voulais encore plaire à des humains, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Voilà. Réfléchissez là-dessus cette semaine, si vous voulez. Mais en tout cas, je vous encourage, soyons des hommes de foi exemplaires. Soyons des Shadrach, des Meshach, des Abednego. Ayons une foi exemplaire en Dieu.